Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Albanie, la solitude d'un destin. De l'occupation ottomane à la disparition d'Enver Hoxha, Sébastien Villemot propose une synthèse historique consacrée à la trajectoire singulière de l'Albanie. Depuis la domination ottomane jusqu'à la mort du dirigeant communiste Enver Hoxha en 1985. L'ouvrage se distingue par un fil directeur explicite la solitude politique du pays. Située à un carrefour balkanique et méditerranéen, l'Albanie a pourtant été régulièrement marginalisée, négligée ou instrumentalisée par les puissances voisines et européennes. Villemot examine cette apparente contradiction à travers les grandes ruptures du récit national résistance à l'Empire ottoman, construction tardive de l'État, royauté de Zog Ier, occupation du XXe siècle et fermeture communiste. Il accorde une place structurante aux figures devenues emblématiques, notamment Skanderbeg et Hoxha, afin de montrer comment l'histoire, le mythe national et l'exercice du pouvoir s'entrecroisent. Le livre vise ainsi à rendre intelligible un pays souvent réduit, dans les récits européens, à ses périodes de crise ou à son isolement communiste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la solitude, comme grille de lecture de 5 siècles d'histoire albanaise, le titre ne renvoie pas seulement à l'isolement extrême de l'Albanie sous Enver Hoxha. Il sert de principe d'interprétation pour une histoire plus longue, marquée par une intégration incomplète aux grands équilibres régionaux. Villemot souligne le paradoxe d'un territoire placé entre Adriatique, mondes ottomans, slaves, grecs et italiens, mais dont la voie politique est longtemps demeurée faible. L'Albanie a subi des dominations, des rivalités territoriales et des décisions diplomatiques prises largement hors d'elle, sans bénéficier durablement de la protection d'une grande puissance. Cette perspective permet de relier des épisodes qui pourraient autrement apparaître disjoints, la longue période ottomane, l'indépendance tardive, la fragilité de l'entre-deux-guerres, l'annexion italienne, puis la marginalisation au sein même du camp communiste. La solitude décrite n'est donc pas une essence intemporelle du pays ni un simple trait psychologique collectif. Elle désigne une condition historique produite par des rapports de forces inégaux, des frontières contestées et des alliances incertaines. Ce cadre évite aussi de présenter l'isolement hoxhiste comme une anomalie sans précédent. Le régime l'a porté à un degré radical, mais il s'est inscrit dans un imaginaire national déjà nourri par la méfiance envers les voisins et par le sentiment d'avoir été abandonné. L'intérêt de cette grille est de faire dialoguer histoire internationale et formation de l'identité albanaise. Deuxièmement, Skanderbeg de la résistance anti-ottomane au socle du récit national. La figure de Skanderbeg occupe une fonction centrale parce qu'elle condense la question de l'identité albanaise. Issu de l'aristocratie locale et formé dans l'univers ottoman avant de rompre avec lui, Gergji Kastrioti Skanderbeg mena au XVe siècle une résistance durable contre l'Empire. Son importance dans le livre dépasse le récit militaire, il devient un repère pour comprendre comment une mémoire historique peut soutenir l'idée d'une continuité nationale malgré les dominations et les divisions confessionnelles. La résistance conduite autour de la Ligue de l'Aisée a offert un symbole d'unification à un pays dont les structures sociales et régionales restaient diverses. Villemot met ainsi en évidence le caractère paradoxal du héros, son parcours est lié à l'empire qu'il combat ensuite, tandis que sa postérité est beaucoup plus vaste que le cadre politique de son époque. Ce décalage explique sa force mémorielle, les mouvements nationalistes. Puis le régime communiste ont pu mobiliser Skanderbeg comme incarnation d'une Albanie indépendante, combative et irréductible à ses puissants voisins. Une telle récupération ne signifie pas que le mythe soit artificiel. Elle montre plutôt qu'un symbole historique peut être réinterprété selon les besoins de légitimation du présent. Le lecteur est donc invité à distinguer l'homme du XVe siècle, la mémoire de sa résistance et les usages politiques ultérieurs de son image. Ahmed Zogu, devenu roi en 1928, incarne une tentative de donner à un État récent une stabilité institutionnelle, une visibilité internationale et une forme de continuité dynastique. Son serment prêté sur la Bible et le Coran constitue, dans ce contexte, un geste particulièrement révélateur, il exprime la nécessité de représenter une population ou musulmans. Orthodoxes et catholiques appartiennent à des traditions religieuses différentes. Le fait est moins une curiosité monarchique qu'un indice des conditions de l'unité nationale albanaise, pensée sur une base qui ne pouvait se réduire à une seule confession. Le livre situe également cette royauté dans un environnement de dépendance. La recherche de reconnaissance auprès des cours européennes et l'influence croissante de l'Italie montrent combien la souveraineté formelle demeurait vulnérable. La fuite de Zog lors de l'invasion italienne de 1939 a durablement affecté son image. Mais elle révèle surtout le déséquilibre entre les ambitions d'un petit État et la puissance de son protecteur devenu envahisseur. En traitant Zog comme une figure paradoxale plutôt que comme une simple parenthèse pittoresque, Villemot fait ressortir les difficultés concrètes de gouverner, unifier et défendre l'Albanie. Cette séquence prépare la compréhension des ruptures politiques qui suivront la Seconde Guerre mondiale. Quatrièmement, envers Oksha, l'isolement communiste transformé en système de pouvoir, la période d'envers Oksha constitue l'aboutissement le plus radical de la solitude examinée par l'ouvrage. À la tête de l'Albanie communiste de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa mort en 1985, Oksha installa un régime autoritaire fondé sur le parti unique. La répression et une orthodoxie stalinienne durable. Son itinéraire international est décisif après des relations étroites avec la Yougoslavie, le régime rompt avec Tito. Il se détache ensuite de l'Union soviétique dans le contexte de la déstalinisation, puis finit par rompre également avec la Chine. Ces ruptures successives ne relèvent pas seulement d'une intransigeance doctrinale. Elles renforcent le contrôle interne en présentant les divergences extérieures comme autant de menaces contre l'indépendance nationale. L'autarcie et la suspicion deviennent alors des instruments politiques. Le livre aide à comprendre pourquoi la référence à Skanderbeg pouvait être utile au pouvoir communiste. Le régime associait sa propre révolution à une longue tradition de résistance contre les dominations étrangères. Cette appropriation ne doit toutefois pas masquer la différence fondamentale entre indépendance nationale et fermeture totalitaire. L'isolement sous Oksha a eu des conséquences humaines, économiques et culturelles profondes, en limitant les échanges et en entretenant la peur de l'extérieur. La mort du dirigeant clôt une période exceptionnelle par sa durée et par l'intensité de son repli, mais laisse au pays un héritage difficile à dépasser. En dernier lieu, une histoire de l'identité albanaise entre influence subie et continuité revendiquée. L'un des apports majeurs de cette synthèse est de ne pas réduire l'histoire albanaise à une succession de dominations. Villemot insiste au contraire sur la permanence d'une identité qui s'est formée au contact d'influences multiples sans se laisser entièrement dissoudre en elle. L'héritage ottoman est incontournable, mais il coexiste avec des liens catholiques, orthodoxes, italiens, balkaniques et européens. Cette pluralité rend insuffisantes les lectures qui classeraient simplement l'Albanie dans un bloc culturel unique. Elle explique aussi les difficultés de la représentation nationale. L'unité du pays devait se construire à travers des clivages religieux, régionaux et sociaux, ainsi que sous la pression d'intérêts étrangers souvent concurrents. Les grandes figures choisies dans le livre permettent de suivre cette tension. Skanderbeg sert de point d'ancrage à une identité résistante. Zog tente de la traduire dans la forme étatique moderne. Oksha la mobilise pour justifier un pouvoir fermé et répressif. Le lecteur comprend ainsi que l'identité nationale n'est pas présentée comme une donnée fixe, mais comme un langage politique régulièrement réélaboré. Cette approche est utile pour éviter deux écueils exotiser l'Albanie en la présentant comme une exception incompréhensible, ou la dissoudre dans une histoire balkanique indifférenciée. L'ouvrage restitue au contraire la spécificité d'une trajectoire nationale façonnée à la fois par l'endurance interne et par une exposition constante aux puissances environnantes. En conclusion, Albanie, la solitude d'un destin s'adresse d'abord au lecteur qui cherche une porte d'entrée claire vers l'histoire moderne de l'Albanie. Il conviendra aux étudiants, aux voyageurs désireux de replacer le pays contemporain dans sa profondeur historique, ainsi qu'aux lecteurs intéressés par les Balkans, les nationalismes et les régimes communistes. Cette mise en relation aide à comprendre à la fois les logiques du repli communiste et les limites d'une explication exclusivement idéologique. L'ouvrage se démarque des biographies centrées sur Oksha et des études strictement diplomatiques par son attention aux usages successifs de l'identité albanaise. Skanderbeg, Zog Rimier et Oksha n'y apparaissent pas comme de simples personnages marquants, ils permettent de lire les transformations du rapport entre mémoire nationale, pouvoir politique et dépendance extérieure. Cette perspective synthétique est particulièrement précieuse pour un pays souvent peu présent dans les récits généraux de l'Europe contemporaine. Sans prétendre remplacer une étude spécialisée de chaque période, le livre semble offrir un cadre cohérent pour les aborder. Sa singularité tient donc à son effort pour faire de la marginalisation albanaise non un cliché. Mais une question historique, comment un pays situé au croisement de plusieurs mondes a-t-il préservé une forte conscience de lui-même tout en connaissant des formes répétées de vulnérabilité et d'isolement? Si vous souhaitez soutenir Sébastien Villemotte, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.